BFM Business présente Recherche Talent avec Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Recherche Talent, la seule émission où ce sont les patrons qui passent un entretien d'embauche. Aujourd'hui, le défi est lancé à Muriel Assouline, directrice générale d'Air Caraïbes Atlantique. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va faire connaissance avec nos trois étudiants du jour.
Bonjour, je m'appelle Manon Strasser, j'ai 21 ans et je suis étudiante en première année du cycle ingénieur à Télécom Paris. Je suis également la présidente de la junior entreprise de l'école, Télécom Études. Pour moi, Air Caraïbes, c'est une compagnie aérienne qui permet de relier l'ensemble du territoire français. J'ai très hâte de rencontrer Muriel Assouline pour lui poser plus de questions. Notamment, en tant que futur ingénieur de la tech, j'aimerais savoir quelle serait ma place et quel pourrait être mon rôle dans le futur de l'entreprise.
Je me présente, je m'appelle Florent Gojal, j'ai 20 ans et je suis étudiant à l'ENSIMAG, qui est une école d'ingénieurs informatiques à Grenoble. Je suis également le président de NSIGMA, la junior entreprise de cette école. Et donc aujourd'hui, j'ai hâte de pouvoir rencontrer Madame Assouline afin de lui poser des questions sur la manière dont elle gère la stratégie de Air Caraïbes, mais aussi sur les perspectives d'évolution qu'elle entrevoit pour cette entreprise.
Bonjour à tous, je m'appelle Odin Vidal, j'ai 22 ans, je suis étudiant à l'UM Lyon et également président chez UM Lyon Junior Conseil. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec Madame Assouline pour comprendre sa vision stratégique pour maintenir Air Caraïbes parmi les top compagnies françaises sur un marché aussi concurrentiel.
Manon, Florent et Odin, bonjour à tous les trois. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Face à vous, Muriel Assouline, directrice générale d'Air Caraïbes Atlantique. Muriel Assouline, Air Caraïbes, 8 lignes ouvertes, 9 avions, petite compagnie aérienne. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ?
Alors Air Caraïbes, c'est la deuxième compagnie française. C'est une compagnie privée à taille humaine. C'est quand même 1200 collaborateurs.
Pas si petite que ça.
C'est 9 avions gros porteurs qui font principalement l'arc Caraïbes. Voilà, entre beaucoup de vols, entre notre base à Paris qui est à Orly et bien sûr Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne, mais aussi la République dominicaine, Cancun, et des avions régionaux qui vous permettent de relier les îles entre elles.
Avant de rentrer dans les questions avec nos trois étudiants, le trafic aérien a repris de manière flamboyante. Là, sur le recrutement, par exemple, des talents, c'est quoi un peu votre perspective ?
Notre perspective, on est, oui, en pleine reprise. On a dépassé le trafic avant Covid, comme on dit. Vous savez, notre année de référence 2019.
Les années noires
qui ont été très longues, 2020, 2021, même 2022. 2023, une première année de reprise. Et donc là, maintenant, 2024, on est en pleine reprise, on est en pleine croissance et donc on a besoin de nouveaux talents pour venir nous rejoindre.
Est-ce que quelqu'un a déjà pris un avion d'Air Caraïbes ?
Non. J'ai pas eu cette chance.
Non, pas eu cette chance. Eh bien écoutez, c'est peut-être pour maintenant. On y va avec les questions. On commence avec vous, Manon.
Alors moi, ma première question, elle concerne des enjeux RSE, donc notamment d'écologie. Le transport aérien, c'est un domaine qui est relativement polluant et de plus en plus, les jeunes s'intéressent à ces enjeux-là. Moi, je me demande, à Air Caraïbes, comment est-ce que vous considérez la transition écologique, le renouvellement de la flotte avec des avions hydrogène dans le futur ? C'est quoi un peu votre politique de ce point de vue-là ?
Alors, c'est un sujet qui est au cœur d'Air Caraïbes depuis des années parce que c'est d'abord un sujet du choix des avions. Chez Air Caraïbes, on a l'avion le plus performant sur le marché, qui est l'Airbus A350. C'est le dernier cri long courrier. Et c'est un avion, quand vous comparez avec un avion équivalent, qui consomme déjà 25% de kérosène en moins qu'un avion équivalent. Donc ça, c'est très important, le choix de la flotte. Vous avez raison, les choix technologiques. Et une compagnie aérienne, ça se fait très en amont. Donc aujourd'hui, l'enjeu écologique, il est fort chez Air Caraïbes depuis de nombreuses années, puisque les choix d'avions, ça se fait 10 ans en avant. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est au cœur de notre actualité. Nous avons énormément de jeunes talents et de moins jeunes talents, de gens expérimentés, qui sont dans des groupes de travail qu'on appelle la Green Team, qui travaillent sur l'éco-pilotage, donc avec les pilotes de ligne, qui travaillent sur l'éco-pilotage des sites internet, de la nourriture à bord. Donc, on a énormément de sujets à participer vraiment de façon très active à la décarbonation.
Et ça marche partout. C'est-à-dire que c'est pas seulement que le carburant, ça peut être plein d'endroits dans l'avion qu'on peut améliorer pour consommer moins.
Oui, c'est un sujet. Bien sûr, l'avion, on peut dire que l'avion est est un transport qui n'est pas le plus vert. Mais d'abord, l'avion est indispensable aujourd'hui pour relier, traverser l'Atlantique. Il est indispensable et pour les deux, pouvoir prendre l'avion. Donc nous, notre enjeu, c'est de chaque maillon, chaque personne qui travaille chez Air Caraïbes doit avoir une conscience de faire mieux d'un point de vue consommation électrique, d'un point de vue gaspillage alimentaire à bord de nos avions. Vous savez, le catering qu'on met à bord, d'un point de vue tout ce qu'on peut mettre à bord de l'avion de façon à consommer aussi moins de carburant.
Florent.
Oui, alors ma question, c'est qu'on voit en ce moment, il y a un peu une troisième vague autour de l'IA. Et donc, je me demandais comment on fait pour intégrer les nouvelles technologies et notamment l'IA chez Air Caraïbes.
Ta troisième vague.
Ouais, parce qu'il y a eu une vague en 1970, je crois, puis 80. Alors, je connais pas trop les dates exactes, d'accord. Mais il y a trois vagues.
Moi, je croyais que c'était la première grosse vague,
là, c'est
mais...
La troisième.
Alors, moi aussi, je pensais qu'on était à la première grosse vague. C'est ça la différence, peut-être, de
génération. En fait, c'est tout.
De génération. Mais ce qui est sûr, c'est que l'IA, on voit bien aujourd'hui, s'intègre dans tous les métiers. Donc, on a des gens qui peuvent travailler au commercial, qui travaillent avec des développeurs et toutes des équipes informatiques qui veulent intégrer de l'IA dans nos métiers à la fois de service, parce qu'une compagnie aérienne, on est une compagnie de service, puisqu'on doit transporter des clients dans un avion, et aussi un métier innovant. Donc, quand on dit innovation, faire voler des avions, forcément, on va intégrer de l'intelligence artificielle.
Et pour les questions de cybersécurité, vous êtes ingénieur informaticien. J'imagine que la cyber, c'est quand même un sujet chez vous très important.
C'est un sujet qui est devenu de plus en plus important, qui est maintenant légiféré. L'agence européenne, qui légifère pour les compagnies aériennes, maintenant a un règlement depuis cette année. C'est très récent, qui nous demande des exigences en matière de cybersécurité. Alors, on avait devancé, parce que pour être une compagnie agile et s'adapter rapidement, il faut anticiper le législateur et faire avant que ça soit obligatoire. Et donc aujourd'hui, oui, la cybersécurité est importante pour une compagnie aérienne, d'autant plus qu'aujourd'hui, ces avions modernes sont extrêmement connectés.
Audin.
Moi, j'avais une question du coup vraiment orientée stratégie. Air Caraïbes voit le jour avec le rachat de Air Guadeloupe dans les années 2000, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et donc, j'aurais aimé comprendre comment, en une vingtaine d'années, vous avez fait pour quand même capter 2,5% des parts de marché sur un marché qui est aussi concurrentiel et aussi compétitif que celui des compagnies aériennes?
Alors, Air Caraïbes, la réussite, c'était une réussite avec une croissance mesurée, maîtrisée. C'est un groupe familial, on est à taille humaine, et donc quand on ouvre une route, pour commercialiser une route, il faut que vous ayez en tête que ça va prendre une année. Donc aujourd'hui, une entreprise, une compagnie aérienne comme Air Caraïbes va intégrer des avions une fois par an, ouvrir des routes qu'une seule fois par an pour maîtriser et rapidement être en mesure de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, Air Caraïbes, c'est le premier groupe français hors groupe de la compagnie nationale et ça représente plus de 30% des parts de marché sur l'arc Antilles.
Mais ça veut dire qu'on était à 8 lignes ouvertes, on va, c'est quoi, une par an, il n'y en aura pas plus, vous n'irez pas plus vite.
Il n'y a pas non plus de règles écrites. C'est l'histoire en 20 ans, on a fêté l'année dernière les 20 ans d'Air Caraïbes long courrier. Et donc, en 20 ans, il y a à peu près 8 lignes qui ont été ouvertes. Donc, vous voyez à peu près le rythme des ouvertures. Alors, on a en tête quand même les 3 années de Covid. On a peu ouvert de routes pendant les années Covid. Aujourd'hui, on a Cancun qui a été ouverte l'année dernière. Et donc, petit à petit, on voit s'améliorer les chiffres. Et on est forcément en croissance. C'est un secteur d'activité où il faut s'adapter, aller vite et pas stagner. Et qui dit ne pas stagner, c'est aussi générer de la croissance.
Mais la question qui est derrière, c'est est-ce que vous êtes moins cher que la compagnie nationale dont on ne dit pas le nom, mais qui a priori est Air France? Est-ce que vous êtes moins cher?
En billets d'avion?
Ouais.
Ça va dépendre. On a des jeunes talents comme vous qui travaillent ce qu'on appelle sur le revenu management, ouais. Le yield, fixer les prix au bon tarif, au bon moment.
C'est pour Audin.
Donc il y a des jours où on va être peut-être parce que ça va dépendre de la classe. On a une classe Madras, où c'est une classe avec un lit qui va être plus cher qu'une classe économique de nos compagnies concurrentes. Donc ça va dépendre des jours.
C'est pas une stratégie low cost, quoi. C'est ça que je veux dire derrière. C'est pas ça. C'est du yield management classique.
Oui.
Autre question, Manon.
Alors moi, c'est une question qui concerne un peu les talents que vous recherchez. Donc, on connaît les hôtesses de l'air, on connaît les pilotes. Mais en tant qu'ingénieur à Air Caraïbes, c'est quoi notre pain quotidien? C'est quoi vraiment les compétences que vous recherchez?
Vous êtes ingénieur, vous-même?
Je suis ingénieur. aéronautique il y a quelques années. Mais on recherche des ingénieurs. Je vais dire que les compétences d'ingénieurs, de capacité de travail, d'organisation, ça, l'école vous l'a bien appris. On va chercher des gens sur des compétences humaines qui ont envie de s'investir dans une compagnie à taille humaine, qui sont agiles, qui s'adaptent, qui ont envie de participer à une histoire. Et donc, un ingénieur, aujourd'hui, l'avantage qu'on a dans une entreprise à taille humaine, c'est qu'il va pouvoir faire beaucoup de métiers très rapidement.
Mais c'est quoi? Parce que, par exemple, la question de Manon, je la comprends bien. En tant qu'ingénieur, qu'est-ce qu'on fait dans une compagnie aérienne qui en fait, propose du service? Elle ne va pas construire des avions, clairement. Les avions vont arriver tout faits. Donc, ça va être quoi son boulot à elle?
Alors, le travail, ça pourrait être de travailler sur la maintenance des avions. Donc, de réparer les avions, de suivre les protocoles d'Airbus, de suivre les améliorations, d'améliorer la fiabilité. Là aussi, il y a l'intelligence artificielle, de travailler en prédictif de quelle panne nous, on va pouvoir avoir. Ça va être un ingénieur opérationnel, savoir si on peut se poser sur cet aéroport. On peut voir au quotidien qu'on peut avoir des demandes. Là, on est en train de travailler sur un exercice probablement avec le SAMU. Donc, on va faire un petit aéroport. Donc là, c'est des ingénieurs qui vont faire des calculs. Ce n'est pas Airbus le constructeur. Ça peut être dans, je vous parlais du revenu management, ça peut être au commercial. On peut avoir des ingénieurs au commercial. C'est une diversité de métiers qui est très forte, beaucoup plus forte que chez un équipementier ou un constructeur d'avions où vous allez être dans un bureau d'études extrêmement plus restreint, je vais dire.
Florent.
Moi, j'ai aussi une question de stratégie. En tant que directrice générale d'Air Caraïbes, comment est-ce que vous faites pour piloter la stratégie de votre entreprise dans un domaine qui est quand même assez concurrentiel, comme l'a dit Audin tout à l'heure?
Vous travaillez également dans les jeux de mots.
Oui, piloter, oui.
Oui, oui, j'ai noté.
Alors, pour piloter une entreprise, d'abord, il faut avoir une feuille de route. Donc, on a une feuille de route précise, on réalise des budgets, des business plans à 3 ans, et donc, on a une ligne de conduite, et tous les mois, on va revoir les chiffres, les parts de marché, les chiffres transportés, le coût de la masse salariale, les pilotes, les hôtesses, les stewards, enfin, tous les points de coût. Et on va piloter ça, on va piloter nos ressources humaines. Est-ce qu'on a les bons effectifs, les bons talents pour travailler? Et tout ça, c'est une question humaine, en fait. Une entreprise comme une compagnie aérienne, c'est une histoire de personnes, d'hommes et de femmes.
Audin, dernière question.
Oui, c'est bien que vous ayez abordé tout à l'heure la question des prix. Je voulais revenir sur un sujet qui a vraiment très fortement impacté les compagnies aériennes. C'est la question du kérosène, de la hausse de son prix, pardon. J'ai vu que vous aviez notamment certains trajets qui n'avaient pas pu être maintenus à cause de coûts opérationnels trop élevés. Je voulais savoir justement comment vous, individuellement, en tant que dirigeante, vous arrivez à trouver un équilibre entre préserver vos marges, rester compétitif sur les prix des billets, préserver un service. Comment vous arrivez à organiser tout cet équilibre finalement?
Alors, pour organiser cet équilibre, il faut déjà avoir le bon avion. Donc, heureusement, il y avait eu le choix de l'avion. C'est le bon avion, le 350, pour plein de raisons. Il est efficace en carburant, je l'ai dit précédemment. Il est efficace pour les passagers, c'est le plus confortable. Donc, c'est le bon produit. C'est d'adapter le bon produit. On va piloter ça avec ce qu'on appelle les coefficients de remplissage. Il faut qu'il y ait un bon coefficient de remplissage. Et les parts de marché que vous pouvez avoir sur route par route, tout ça est travaillé, je vais dire, quotidiennement.
La question, c'est est-ce qu'il y a un prix du carburant auquel le modèle n'est plus rentable? C'est pour vous, mais pour le cas de plein d'entreprises autres, de compagnies aériennes, ce prix du carburant, ça vous force à évoluer quand même?
Ça nous force à nous évoluer, à voir les choses, l'organisation de nos entreprises de façon agile et de nous adapter. C'est-à-dire qu'une compagnie comme Air Caraïbes, si c'est plus cher de décoller que de ne pas décoller... Oui. On va pas décoller parce que une fois c'est des avions long courrier, ils traversent l'Atlantique, c'est le voyage long comme vous pouvez l'imaginer, le connaître. Donc c'est beaucoup de rêves, mais c'est aussi beaucoup de coûts associés dès que l'avion décolle. Et donc on pilote au quotidien ces sujets-là.
J'ai le temps pour une dernière question. Elle est pour vous, Manon.
Moi, c'est une question par rapport à la mixité. On est deux femmes ici. Le milieu ingénieur, c'est un milieu qui est très peu mixte, très masculin. À Air Caraïbes, est-ce que vous avez des actions concrètes pour mettre en place plus d'égalité, plus d'équité dans votre entreprise?
Sachant que là, vous êtes sur un binôme de direction féminin. Après le départ de Marc Rocher, vous êtes deux femmes à la tête d'Air Caraïbes.
Voilà, on est deux femmes. Donc, la preuve que chez Air Caraïbes, le sujet, la femme n'est pas un obstacle. Je suis d'accord quand je vois... les CV qui peuvent arriver dans certains métiers. Alors, c'est en train de s'équilibrer, je dirais. Je trouve que sur les ingénieurs très spécialisés, par exemple sur la maintenance des avions, on est encore très masculin. Par contre, je vois les ingénieurs plus généralistes que vous représentez, il y a beaucoup plus de femmes. Et dans nos équipes, on a de nombreuses femmes. Ça, aujourd'hui, on est dans une bonne démarche. Et je pense qu'Air Caraïbes, on est la démonstration. Je suis la preuve vivante qu'une ingénieure femme peut diriger une compagnie aérienne.
Manon, combien de femmes avec vous en école d'ingénieur ?
Malheureusement, nous ne sommes que 17% à Télécom Paris. C'est encore très peu élevé. Donc j'espère qu'avec ce genre d'action et avec ce genre d'exemple de rôle modèle, on va être capable d'inverser cette tendance qui est là depuis quand même beaucoup d'années.
Bah oui, 17% et 17% depuis des années. C'est ça qui ne change pas. On va débriefer ensemble, tous les trois. Vous allez rejoindre les coulisses, Muriel Assouline, et vous revenez dans un instant.
Recherche talent sur BFM Business.
Manon, Florent, Audin, qu'est-ce que vous avez pensé de notre patronne du jour, Muriel Assouline? Manon, je commence avec vous.
Bah évidemment, Air Caraïbes, ça fait rêver. On a tous envie d'aller dans les îles pour les vacances. Maintenant, en tant qu'ingénieur, c'est vrai que ce qui est assez remarquable, c'est la quantité de métiers qu'on peut effectuer là-bas. Il y a du technique, il y a du moins technique, et on sent qu'on a vraiment la capacité d'évoluer dans l'entreprise, comme l'a souligné Muriel. Elle-même en est la preuve. Et c'est vraiment ça qui donnerait envie à des élèves ingénieurs comme moi de rejoindre l'entreprise.
Florent.
Moi, ce qui m'a pas mal intéressé, c'est l'utilisation de l'IA et l'aspect RSE dans son entreprise. Parce que comme dans l'aviation en ce moment, l'aspect RSE, ça fait vraiment débat un peu partout. Et donc, je pense que
ça veut dire qu'il y a du boulot.
C'est sûr qu'il y a du boulot. Et donc, je trouve ça bien qu'ils aillent de l'avant et qu'ils essaient de mettre ça en place. Et pareil pour l'IA, je viens d'une école d'ingénieurs informatiques, donc l'IA, ça m'intéresse. Donc, ils en font, ça m'intéresse également.
Mais justement, vous dites, une boîte comme Caraïbes, ils font de l'IA, je vais leur apporter cette pierre. Ouais. Vous dites pas, je vais aller dans une boîte d'informatique ou une autre boîte de la tech.
Disons que l'aviation n'est pas un domaine fermé pour faire de l'IA, donc ça vous déporte et c'est plutôt une bonne nouvelle.
Audin, de votre côté.
Premièrement, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a senti une cohérence dans le discours. Il y a des mots qui sont revenus comme entreprise à taille familiale, croissance mesurée. Donc on comprenait bien déjà la dimension qu'elle voulait donner à Caraïbes. Ça, je trouvais ça intéressant. Et ensuite, ce qui moi pourrait beaucoup m'intéresser, c'est que le milieu des compagnies aériennes, c'est un milieu où chaque changement est significatif, où lorsqu'on va intervenir dans la stratégie, on est sûr qu'il y a une vraie retombée derrière, parce que ça va se traduire directement par les chiffres. Et c'est ce qui fait que moi, ça pourrait notamment beaucoup m'intéresser.
Vous avez l'impression que vous allez avoir un impact, quoi.
Exactement, parce que quoi qu'on fasse dans ce type d'entreprise, ça va se ressentir directement, que ce soit sur le prix, sur la qualité du service proposé. Donc oui, moi, c'est quelque chose qui pourrait beaucoup m'intéresser.
Je vois vos deux compères qui hochent la tête. Le fait d'être dans une entreprise... Non, mais c'est vrai qu'il y a 9 avions. Hein, donc c'est vrai que toute décision va être prise assez vite. Toujours cette question d'impact. Vous n'avez pas parlé salaire. Vous n'avez même pas posé la question. C'est pas ça qui vous intéresse en premier. Manon, la question de l'impact, elle est fondamentale?
C'est fondamental. On veut être compris dans son individualité. On veut que notre créativité soit prise en compte. Et l'entreprise qui est à taille humaine, mais qui a les moyens quand même de mettre en valeur nos idées, c'est quelque chose qui est fondamental. Pour le développement, pour sa réussite professionnelle, être entendu, c'est quelque chose qui est primordial pour nos profils.
Et en même temps, je me fais l'avocat du diable, c'est pas trop petit. C'est-à-dire que pour des grandes ambitions, je suis sûre que vous en avez, vous vous dites pas, c'est une boîte qui peut-être ne va pas m'apporter tout ce que je vais pouvoir faire en termes de perspective de carrière.
Moi, je suis pas forcément d'accord avec vous, parce que justement, la possibilité de travailler dans une entreprise à taille plus familiale, bien que familial, le mot soit très osé, c'est la possibilité de toucher à beaucoup de choses, justement. C'est la possibilité d'avoir plein de responsabilités, de toucher à de diverses choses et vraiment de monter en compétences. Et je pense qu'à 20 ans, c'est vraiment ce qui nous intéresse aussi.
Florent.
Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est bien de pouvoir toucher à tout. Puis c'est être dans une petite entreprise, c'est aussi des perspectives d'évolution plus rapide. Et donc, en soi, c'est aussi une bonne chose.
Vous ne voulez pas faire 3 ans dans un cabinet de conseil, d'abord?
Peut-être.
Non, peut-être. Tout est ouvert. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans Recherche Talent.
Merci à vous.
Aujourd'hui,
merci.
On va débriefer avec Muriel Assouline.
Recherche Talent sur BFM Business.
Muriel Assouline, directrice générale d'Air Caraïbes Atlantique. Vous avez fait face à Manon, Florent et Audin. Bon, exercice plutôt réussi. Parfois, j'ai des étudiants sur ce plateau qui ont peur des petites boîtes. Et là, ça a été vu comme un atout.
Oui, parce que ça offre beaucoup de carrières et donc je pense qu'ils sont ça les intéresse de pouvoir maintenant bouger assez rapidement. Et puis, je pense qu'ils cherchent du sens, ils ont raison, et une petite entreprise, ça donne beaucoup de sens à son emploi.
Alors justement, sur cette question du sens, tous les trois disent que s'ils rejoignent une entreprise comme la vôtre, ils ne veulent pas la changer, mais ils veulent quasiment changer le monde à travers ce que vous allez proposer. Donc il va y avoir une attente qui est très forte. Ils ne vont pas être déçus, ils vont pouvoir proposer toutes les idées qu'ils ont, faire toutes les évolutions possibles.
Oui, ils vont pouvoir beaucoup proposer. Alors bien sûr, tout ne sera pas réalisable, mais on a besoin de toutes les manières de jeunes comme ça qui bouleversent l'organisation, qui bouleversent tout le monde pour avancer, progresser. Parce que sinon, si on n'avance pas, et on ne progresse pas dans notre métier de compagnie aérienne, eh ben on n'existe plus.
Parce que je les sens en incapacité d'accepter des ordres managériales qu'ils ne trouveraient pas intéressants ou justifiés, ou des décisions même économiques. Enfin, on les sent vraiment investis, quoi.
Oui, mais je pense que si on leur explique bien, comme ils ont, on va dire, un esprit intelligent, pratique, organisé, si on accompagne et qu'on leur explique bien pourquoi on prend cette indécision, ils vont y adhérer. C'est extrêmement important. Et je pense que leur talent et leur innovation, leur envie de faire beaucoup de choses n'est pas un frein à l'acceptation d'un management de décision et respecter l'organisation.
Sur la question des femmes, donc Manon aujourd'hui était la seule ingénieure sur le plateau, on est à peu près à moins de 20% dans les écoles. Est-ce que vous retournez à l'ENAC pour discuter avec les jeunes femmes s'il y en a? Et est-ce que vous êtes dit dès le départ, je serai ingénieure, je travaillerai dans l'aéronautique?
Alors, je ne retourne pas assez dans les écoles d'ingénieurs, mais je pense que le travail qu'il faut qu'on fasse, les femmes de l'industrie, on va dire un peu technique, c'est d'aller dans les écoles plus petites. Je vais dire à l'ENAC, c'est déjà terminé.
Avant.
Donc, en fait, il faut instruire dès la jeune enfance que les métiers techniques, la mécanique n'est pas réservée aux garçons. Et ça, c'est important d'y travailler dans le quotidien. Ensuite, on a quand même beaucoup plus de femmes. On a des femmes pilotes aujourd'hui qu'on n'avait pas. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une démarche où, on va dire, nos métiers se féminisent.
Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on montre le spatial, l'aéronautique, les tracteurs aux jeunes filles? Parce que moi, je n'ai que 40 ans, mais c'est quelque chose qui m'était totalement inaccessible étant petite.
Alors, on le fait de plus en plus, mais il y a des progrès à faire. On doit le faire au quotidien, dans nos cercles personnels. Et les sociétés ont un rôle sociétal sur ce sujet. Et donc, aujourd'hui, on participe à beaucoup de forums d'écoles, de grandes écoles, pour promouvoir, évidemment, nos métiers techniques et notre métier de transporteur aérien auprès des étudiants.
Un mot des salaires. Est-ce que vous allez pouvoir mettre un peu plus cher qu'Air France ou d'autres compagnies pour certains talents? Est-ce que vous avez des grilles très précises?
Alors d'abord, on est au marché. Il n'y a pas de petits salaires, petites compagnies. Il y a un prix du marché. Après, l'avantage que va avoir un jeune talent dans une entreprise comme Air Caraïbes, c'est d'abord d'avoir du variable très rapidement, ce qui n'est peut-être pas le cas dans des très grosses entreprises. On partage la valeur. C'est la première année en retour de Covid où Air Caraïbes va verser à l'ensemble des salariés une participation, un intéressement important. Et donc aujourd'hui, sur ce sujet-là, je ne suis pas inquiète, on est dans le marché.
Merci beaucoup Marie Lassouline d'être venue nous voir dans Recherche Talents. C'est terminé pour cette semaine. Vous pouvez bien sûr revoir ou réécouter l'émission en replay et en podcast sur l'application BFM Business. Je vous dis à la semaine prochaine.
Recherche Talents sur BFM Business.